Docteur Pierre Frémont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Québec?
Oui.
Je rappelle que vous êtes président de la collaboration canadienne pour les commotions cérébrales, également professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Vous êtes là pour nous parler de recommandations afin d'éviter les commotions cérébrales. Et je lisais qu'au Canada, il y aurait entre 200 000 et 300 000 commotions cérébrales chaque année et qu'à partir de l'âge de 8 ans, un athlète sur deux pourrait subir une commotion au cours de chaque saison dans des sports comme le hockey, le football, le soccer. Ce ne sont pas que les athlètes professionnels, quand on parle de Sidney Crosby, Daniel Brière, bien sûr, qui en subissent et qui ont beaucoup de... Les médias en parlent énormément, c'est une bonne chose, mais ce ne sont pas qu'eux qui peuvent subir de commotions cérébrales.
Absolument pas. Ils ont amené l'attention médiatique sur le sujet, ce qui est une bonne chose. Ça nous aide à progresser dans l'éducation, mais on a des signes que le cerveau de l'enfant en développement est particulièrement fragile, vulnérable, peut prendre plus de temps à guérir suite à une commotion cérébrale.
Quelles seront les conséquences d'une commotion cérébrale sur un enfant en plein développement?
Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'une je pense que c'est important de dire les choses qui sont positives aussi, c'est que une commotion cérébrale bien identifiée dès le premier coup qui éveille les premiers symptômes, c'est un problème qui évolue typiquement très bien de façon spontanée tant qu'on maintient le jeune en dehors des activités à risque. Mm-hmm. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, ce qui arrive trop souvent, malheureusement, c'est que ces premiers symptômes-là ne sont pas associés au concept de commotion cérébrale par ignorance. Mm-hmm. Les jeunes continuent l'activité dans la culture du guerrier qui doit retourner au jeu à tout prix. Et là, il y a un deuxième coup. Et là, on identifie qu'il y a quelque chose qui va mal quand les commotions deviennent plus graves. Et c'est là qu'on a des commotions qui durent longtemps, qui perturbent le fonctionnement scolaire, qui peuvent donner une fragilité chronique à faire de nouvelles commotions, qui peuvent donner des symptômes chroniques. Et c'est là qu'on a une perturbation de la progression scolaire des enfants. Et éventuellement, on a des jeunes qui malheureusement doivent arrêter les sports parce qu'ils font des commotions à propos de rien. Donc, c'est ça qu'on veut éviter.
Donc, ça, ce sont des répercussions qui sont associées à des commotions non traitées.
Oui.
Qui ne seraient pas identifiées, par exemple.
Mal identifiées. Mm-hmm. Et donc, en conséquence, non traitées.
Oui. Justement, comment on les identifie? Comment on peut identifier les symptômes?
Moi, je vous résumerais ça probablement en trois mots. Éducation, éducation et éducation. C'est-à-dire que les symptômes, ils sont simples. C'est des choses qu'on peut questionner dans la mesure où on les connaît et on les recherche. C'est des maux de tête, des étourdissements, des problèmes de concentration, confusion, désorientation, des choses assez générales, de la fatigue, des problèmes de sommeil. Donc, il faut apprendre à questionner les jeunes qui ont un coup un peu plus important ou qui ont l'air le moins
ébranlé. Une chute également? Parce que vous parlez de coup, ça peut être une chute également?
Oui, tout à fait. Donc, les sports, il y a les sports de contact où le contact fait partie du jeu, les sports de collision où les gens vont vite comme au hockey et se frappent volontairement ou non, mais les sports de chute qui caractérisent beaucoup les sports faits par les jeunes filles, le cheerleading, la gymnastique, il faut vraiment, c'est ça, penser à toutes les circonstances qui peuvent donner des commotions.
Docteur Frémont, on a combien de temps pour réagir? On est un parent ou un coach, on identifie ou on soupçonne une commotion cérébrale. Pour éviter justement les répercussions dont on parlait tout à l'heure.
D'abord, dès qu'on a une indication, on a vu un jeune qui est instable sur ses pieds en se relevant, il nous a parlé d'un mal de tête qui est rapidement disparu. Dès qu'on a eu ne serait-ce qu'un petit moment, quelque chose d'identifiable, de reliable au concept de commotion, on doit retirer les jeunes de l'activité en cours. Il n'y a pas de retour qui devrait être autorisé dès qu'on a le moindre incident. Et ça, c'est la chose la plus sécuritaire. Et c'est là qu'on va voir soit la commotion se résorber rapidement, soit qu'on va voir les symptômes s'épanouir dans toute leur ampleur dans les minutes ou les heures qui vont suivre. Parce que souvent, il y a des symptômes qui progressent dans le temps sans devenir très, très sévères, mais ils deviennent évidents, mais seulement 5 minutes, 10 minutes, une heure plus tard. Et c'est pour ça qu'il faut les retirer dès qu'on a un doute.
Mm-hmm.
En anglais, ils disent « when in doubt, sit them out ». Donc, dès qu'il y a un doute, on les retire de l'environnement à risque et on les observe. Puis, comme ça, ben, on évite d'évoluer vers des tableaux plus sévères.
Et combien de temps ça prend de temps? J'imagine que c'est unique pour chaque cas.
Chaque cas est unique, mais il y a des généralités qu'on connaît. On sait qu'à peu près 90 % des commotions vont rentrer dans l'ordre de façon spontanée à l'intérieur de 7 à 10 jours.
OK.
Et quand on compare ça à un rhume ou une gastro-entérite, c'est pas une catastrophe dans la vie d'un jeune, là. Et ça peut être géré en bonne partie par une connaissance du problème, par papa, maman, l'entraîneur, par un message à l'école que le jeune va manquer une journée d'école parce qu'il a encore un peu mal à la tête. Donc, il ne faut pas médicaliser à outrance. Il faut, au contraire, travailler à éduquer les familles, les parents, les entraîneurs, les enseignants.
Et ça, à part par des communiqués de presse ou des émissions de radio, ça se fait comment, Dr. Frémont?
Ah, j'aime bien cette question-là parce que notre principale recommandation qu'on a essayé de diffuser récemment, c'est de mettre en place des protocoles dans les environnements à risque. Et le mot protocole, ça signifie tout le spectre de la planification de ce qui se passe, c'est-à-dire comment prévenir les commotions à travers l'équipement, les règlements, les terrains, comment détecter les commotions, c'est quoi la stratégie d'éducation qu'on va utiliser pour éduquer tout le monde sur les principaux symptômes à rechercher, etc. Donc, la notion de protocole, ça commence pas quand on a identifié la commotion et qu'on commence à la traiter. Ça englobe beaucoup plus large. Et il faut que chaque milieu qui organise des activités à risque, comme des programmes de football, de hockey,
bien sûr,
prenne le temps de s'asseoir et dise, nous, avec nos ressources, dans ce qui caractérise notre environnement, comment est-ce qu'on peut appliquer ça?
Mm-hmm. Docteur Frémont, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de la Collaboration canadienne pour les commotions cérébrales, également professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Vous étiez là pour nous faire vos recommandations afin d'éviter les commotions cérébrales et pour préserver la santé de ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui vont débuter là, avec cette saison, cette rentrée scolaire, leurs activités parascolaires, et également pour parler aux parents et tous les intervenants là, dans le milieu du sport. On espère que ces protocoles seront suivis.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Au revoir.